Alors aujourd'hui, on va commencer notre 11e sermon sur notre série sur la souveraineté de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'élection inconditionnelle. On avait vu certaines choses, on va les reviser très rapidement pour pouvoir continuer dans la deuxième partie. Donc, on avait vu la semaine dernière que l'élection inconditionnelle, c'est un choix divin. Autrement dit, les Saintes Écritures nous démontrent que Dieu a un peuple élu, qu'il a prédestiné au salut et par conséquent qu'il a prédestiné à la vie éternelle. On avait regardé un paquet de versets la semaine dernière. Le deuxième point qu'on avait commencé à regarder un petit peu, c'est que l'élection inconditionnelle, il y a des modalités que Dieu a établies. Donc, les modalités, c'est, on les revise rapidement, avant la fondation du monde, Dieu a choisi certains individus particuliers en vue du salut. Et on avait regardé un petit peu les idées que son choix n'est pas basé sur aucun mérite. Il ne choisit pas quelqu'un parce qu'il a fait mieux que l'autre dans la vie, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas non plus basé sur la foi prévue. Dieu ne t'a pas accordé la vie éternelle parce qu'il regardait dans le temps et il a dit « Ah, elle va croire, donc je lui donne la vie. » Ça ne marche pas de même. Parce qu'il y a des versets qui nous disent le contraire. Alors, donc on peut savoir aussi que la foi et les œuvres sont le résultat et non la cause du choix de Dieu. Donc, les idées qu'on avait regardées la semaine dernière, c'est que Dieu lui-même a fait le choix. On avait regardé des versets. La deuxième idée, c'est que Dieu a fait le choix avant la fondation du monde. C'est drôle de penser à ça, que Dieu nous avait dans son esprit, avant même que nous, on arrive dans l'espace et dans le temps. On parlait la semaine dernière, si tu viens au monde en 46, ça veut dire que Dieu, dans l'éternité, savait que comme individu, moi, je n'étais pas venu au monde cette date-là. Et il y avait une date dans le temps où quelqu'un me parlerait du Christ et je recevrais l'Évangile et que je comprendrais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. Et que là, mes péchés seraient pardonnés, que j'aurai la vie éternelle, la paix de l'âme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, avant la fondation du monde. Donc, Dieu lui-même a effectué le choix. Deuxième idée, Dieu a fait le choix avant la fondation du monde. Et on avait regardé aussi l'idée que le choix divin n'est pas basé sur des mérites prévus dans les personnes qu'il a choisies, ni qui était basé sur des bonnes œuvres prévues. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il a regardé quelqu'un et il dit « Ah, non, ça, lui, est charitable. Ah, ben là, lui, on va lui donner. Ben non, elle, on va lui donner. » Non, rien à voir avec cela. Une grâce, c'est quelque chose, comme on avait déjà mentionné, quelque chose de démérité. Dieu nous donne quelque chose que non seulement on ne mérite pas, mais qu'on mérite le contraire. On mérite l'enfer et il nous ouvre l'esprit, il nous ouvre la compréhension à la personne de Jésus-Christ et le fait qu'il nous accorde de sa grâce. Donc, on avait regardé plusieurs versets, on était rendu là. Là, l'autre idée, on a parlé des modalités, c'est que les bonnes œuvres sont le résultat et non la base de la prédestination. Autrement dit, c'est parce que Dieu nous a donné la vie qu'aujourd'hui, ayant reçu l'Esprit de Dieu, on peut maintenant commencer à vivre en fonction de ce que Jésus-Christ veut qu'on vive, et c'est ça les bonnes œuvres. Quand on fait des bonnes œuvres, si on fait des œuvres que Dieu a prévues d'avance, mais parce qu'on a reçu l'Esprit et qu'aujourd'hui, on est en accord avec le livre de vie. On est d'accord avec ce qui est marqué là-dedans. On est d'accord, même si on n'accomplit pas toujours à la perfection, ou du moins comme on aimerait le faire, ce qui est marqué dans les Écritures, du moins dans notre esprit, on voudrait être capable de tout accomplir ce qu'il nous dit. Alors là, il reste la question que le péché est encore en nous, notre nature pécheresse, et qu'on a des manquements, mais du moins le fil conducteur de notre vie, ça devrait être un fil conducteur d'obéissance à Dieu. Donc, les bonnes œuvres sont le résultat et non la base de la prédestination. Éphésiens chapitre 1, verset 11. « C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. » Éphésiens chapitre 2, verset 9 et 10, ça c'est des versets que tout chrétien qui a plus qu'un an de vie chrétienne, il les a entendus maintes et maintes fois. Mais les entendre et les comprendre, ça, c'est deux choses complètement différentes. Éphésiens chapitre 2, versets 9 et 10. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Prendre conscience que une grâce est quelque chose que tu reçois, la foi et la repentance sont tous les deux des dons de Dieu. Et ça dit dans le verset 9, « Car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Autrement dit, ce n'est pas parce que je fais un paquet de bonnes actions dans ma vie. Une grâce est quelque chose que j'ai reçu de façon gratuite et que je ne méritais pas et que je méritais exactement le contraire. Dieu me l'a donné à la fois la foi et à la fois aussi la repentance. Dans le verset 10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. » Jean, chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors, il nous rappelle que ce n'est pas nous qui l'a choisi, c'est lui qui nous a choisi. Pas tout à fait la même affaire. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11. Ça, c'est un passage que j'aime d'une façon particulière, 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11, parce que le Seigneur nous donne la manière dont on se doit de se conduire après qu'on a reçu le salut. Et il nous dit... Par exemple, « Ainsi y apportant tout votre zèle. » Quand on va regarder, on étudie deux Pierre et qu'on va regarder le grec, quand on dit « apporter tout votre zèle », les auteurs disent qu'on devrait avoir la même attitude qu'un athlète fait les efforts pour gagner son... On sait qu'il y en a, là, les plongeurs, par exemple, ils se lèvent à 4 heures du matin, ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils mettent des efforts épouvantables et sur des très longues périodes de temps pour obtenir quelque chose de terrestre, mondain, temporaire. Et ici, dans le texte, là, quand on va dans le grec, là, ça dit « y apportant tout votre zèle ». Autrement dit, il ne devrait pas avoir de limite à notre zèle. Et il dit « ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la science ». Et à la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Voyez-vous l'enchaînement? Autrement dit, quand on est sauvé, il ne faut pas juste rester sur nos lauriers. Il faut que le Seigneur te dise d'être zélé pour ajouter à ce que tu as déjà, ajouter d'autres choses pour te perfectionner. Regardez verset 8, « Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. » Être oisif, ça veut dire quoi? On ne bouge pas, on ne fait rien. Être stérile, ça veut dire quoi? Une femme qui est stérile, il a beau avoir 50 000 essais, elle n'aura pas d'enfant. Stérile, ça veut dire qu'il n'y a rien, aucun fruit qui va sortir de ta vie. Ça dit que si ces choses-là qu'on vient de nommer, qu'on y met toute notre zèle, ça dit qu'on va, on ne sera pas ni oisif, ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9 est important. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Ici, le mot vocation, il veut dire votre appel. Il ne veut pas dire, parce que des fois, on entendait quand on était jeune, ah, lui, il a la vocation, il va devenir un frère, il va devenir une sœur, il va devenir un prêtre. Le mot vocation, dans le contexte, il ne veut pas dire ça. Il veut dire votre appel. Vous avez reçu l'appel divin. Donc, il dit, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel ou votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Broncher, ça veut dire qu'on peut, quelqu'un on peut broncher, on peut tomber en avant, en arrière, on est branlé, comme on dit. La Bible dit que si on fait toutes ces choses-là, on va être solide comme un chêne. spirituellement. Et le verset 11, et ça c'est la conclusion, « Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Alors, est-ce qu'on peut regarder un texte comme ça puis dire, « Moi, je ne ferai pas ce qui est dit là, puis je vais arriver au bout. » Je vous laisse la réponse. Relisez le texte, regardez ce que le Seigneur nous commande. Il nous commande de faire toutes ces choses-là. Et c'est un texte d'une très intéressant à étudier plus en profondeur. Ce n'est pas le but ce matin, là, mais c'est un texte intéressant à étudier sur cet aspect-là. Troisième point qu'on va regarder, c'est que l'élection inconditionnelle est en vue du salut. Dieu nous a choisis dans l'éternité, mais c'est dans le temps et dans l'espace qu'il s'est révélé à nous par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, pour nous révéler que nous étions des pécheurs perdus, pour nous révéler la glorieuse personne de Jésus-Christ, dans ces aspects qu'on a parlé la semaine dernière, le fait qu'il a subi le châtiment que nous aurions dû subir à notre place, le fait qu'il a accompli à la perfection ce que Dieu exigeait de chacun d'entre nous, donc la parfaite obéissance à la loi en tout temps, sans avoir manqué une seule fois. Et quand je vous disais, j'avais un petit peu à l'esprit ce temps-là, la question de l'enfer. L'enfer, c'est qu'un seul péché, si petit soit-il, moi, des fois, je m'arrête là, puis je pense à ça. Là. Un seul péché, si petit soit-il, nous mériterait, tous et chacun, d'être plongés dans le lac de feu pour l'éternité. Mais si on en a fait 10 000, si on en a fait 100 000, parce que des fois, on n'est pas conscient jusqu'à quel point on est faible, pécheur, misérable. À tous les jours, on a des mauvaises pensées. À tous les jours, il sort des paroles de notre bouche qui sont indignes. À tous les jours, on fait des actions qui sont indignes du Seigneur. Ça nous met encore des péchés. C'est pas à cause qu'on est sauvé que le péché ne mériterait pas d'aller en enfer. Mais c'est que Christ a accepté de subir ce châtiment-là à notre place et tous nos péchés sans exception. Ça, là, ça devrait nous inciter à regarder nos vies et à chaque jour implorer le Seigneur de nous donner la grâce de pécher de moins en moins et de haïr le péché de plus en plus et de prendre conscience qu'un seul, ces petits péchés-là qu'on fait, que nous on considère comme des péchés, des pécadilles, aux yeux de Dieu, faut-tu que Dieu soit d'une sainteté? Moi, des fois, on parle avec Lucie, on va prendre des marques, on parle des fois d'enfer, on parle des belles conversations. On parle d'enfer. Mais il reste que d'en parler, ça nous tient éveillés à ces réalités-là. Et là, je me pose la question, si c'est vrai qu'un seul péché nous mérite l'enfer, si petit soit-il, faut-tu que Dieu soit d'une sainteté telle que cette petite offense-là que nous, on considère comme étant petit, pour lui, ça nous mériterait d'être plongés vivants dans le lac de feu pour l'éternité. Il faut, alors, notre haine du péché et celle de Dieu, ça n'a rien de comparable. Mais Dieu peut nous donner de haïr le péché davantage. Et on a intérêt vraiment à lui demander ces choses-là. Alors, l'élection n'est pas le salut. Quand il t'a choisi, c'était pas le salut, mais c'était en vue du salut, parce qu'il ne t'a pas sauvé, il t'a choisi l'éternité, mais c'est dans l'espace et dans le temps qu'un jour, bien précis, des fois on se souvient de la date, dans certains cas, des fois on ne se souvient pas de la date, mais il reste qu'il y a un moment dans la vie où le Saint-Esprit t'a révélé que tu étais un pécheur perdu, coupable et condamné à l'enfer, et que si le Christ si tu n'avais pas la foi en Jésus-Christ, c'est là que tu irais passer ton éternité. Alors, bien sûr, quand on entend parler qu'une personne est rendue à 80, 85, puis que là, on voit qu'il est en train de descendre, on a-tu intérêt à aller le voir? On a-tu intérêt à y en parler? Ça ne veut pas dire qu'il va accepter, mais au moins, il n'y aura pas devant Dieu le prétexte « Je ne l'ai jamais entendu ton évangile ». Alors, dans Romains, chapitre 11, versets 7 et 8, « Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu, mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. C'est donc qu'il est écrit, « Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » On a 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. « pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Bien sûr, c'est Paul qui parle. Il dit, il souffre pour les élus jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Acte 13, 48, ça c'est mon verset presque préféré. Je n'ai d'autres, mais celui-là, je l'ai en très haute estime. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Très beau verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Quatrième idée qu'on va développer pour l'élection inconditionnelle, c'est l'élection inconditionnelle est un choix souverain de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide quels pécheurs recevront sa miséricorde et seront sauvés. Exode 33, verset 19. Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Deutéronome, chapitre 7, versets 6 et 8. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il l'a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Matthieu, chapitre 20, verset 15. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? » Romains 9, le chapitre Romains 9, c'est un chapitre qui est hautement contesté, mais c'est un chapitre qui est rempli de théologie très profonde. Romains 9, verset 10 à 24. Et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca, quand elle conçut en une fois deux enfants, d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient fait ni bien ni mal, et a fait afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. » Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu qui conteste avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Envers nous, qu'il a aussi appelés, non seulement entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils. Romains 11, versets 4 à 6 et versets 33 à 36. Romains 11, 4 à 6. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient pas des œuvres. Et le Romains 11, 33, 36, ça, je peux dire que c'est mon passage des Écritures préférées, parce que je le trouve tellement riche, tellement profond, tellement sage, et remarquez que Paul a fait cette prière-là, cette exaltation, il est émerveillé devant, parce que Romains parle du salut des hommes, l'œuvre de Dieu dans le salut des hommes. Et là, il était rendu à la fin, et là, il fait, il est exalté devant ce que Dieu a fait. Et moi, j'aime ce passage-là beaucoup, beaucoup. Paul, il termine comme ça le verset, chapitre 11. « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? » Le verset 36, là, ça éclate de beauté. Ça dit « Car toute chose » là, mettez n'importe quoi, là, sont de lui, la source, par lui, le moyen, et pour lui, la fin ultime. C'est d'une profondeur, cette richesse-là, ce verset-là, là, que toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Alors, Paul, il est comme, son esprit est comme parti, là. Il voit l'œuvre de Dieu et il trouve ça extraordinairement profond. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, « Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. » Et le cinquième point, c'est l'élection inconditionnelle, ça entre dans une doctrine qui est plus large, plus profonde, qui est celle de l'absolue souveraineté de Dieu. Ce qu'on est en train de faire, on a commencé par les grandes lignes, Dieu souverain sur les anges mauvais, les anges bons, sur toute chose, et là on est en train de, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que l'élection inconditionnelle, ça s'inscrit dans le cadre beaucoup plus large et beaucoup plus grand de la souveraineté de Dieu sur toute chose, sans exception. Alors, la doctrine de l'élection vraiment fait partie de beaucoup plus large doctrine de l'absolue souveraineté de Dieu sur toute chose. Les Saintes Écritures non seulement nous enseignent que Dieu a prédestiné certains individus à la vie éternelle, mais qu'il a aussi décrété éternellement tous les événements petits et grands de toute sa création. Ça, c'est quelque chose à devrait nous faire réfléchir. Il n'y a rien que Dieu n'a pas décrété. Tout ce qui se produit dans toutes nos vies, dans tout ce qui se passe sur la terre, Dieu l'avait décrété d'avance. Petite chose, moindre. Et là, quand on la doctrine de la providence, là, ça devrait nous faire émerveiller et nous emmener le contentement dans le cœur aussi. Parce qu'à chaque jour, il arrive des choses qui nous déplaisent dans notre vie d'homme. Pourtant, les Écritures nous disent que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu tricote toute chose dans ta vie, les événements heureux, les événements que tu considères malheureux, dans un but précis, celui de t'amener de plus en plus à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Alors, il y a des expériences qui sont amères, il y a des expériences qui sont difficiles, mais Dieu se sert de toutes ces choses-là dans sa grande sagesse, dans son amour, dans sa miséricorde, pour nous amener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Si chaque jour qu'il nous arrive des choses qui nous déplaisent, on comprendrait véritablement ce que ça dit, on chialerait-tu? Pourtant, quand on s'examine le moindrement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On n'arrête pas de chialer. Autrement dit, ce que Dieu a décrété pour ma vie, c'est comme si je serais en train de dire, ben voyons, non, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, c'est pour ça que j'ai besoin. C'est comme si tu étais en train de dire, moi, je sais plus que toi ce que j'ai besoin. Non, tu ne sais pas plus que lui. Lui, il sait parfaitement ce que tu as besoin et il agit sur tes circonstances de manière à ce qu'elles produisent l'effet que lui veut sur ta vie. Ça, c'est... Ça, je dirais là, que c'est dans le steak. Là. Quand on commence, quand on est des jeunes chrétiens, des fois, des choses qu'on n'a pas compris encore. Mais quand on arrive dans la providence, quand on arrive dans le fait que Dieu a tout décrété, tout ce qui se passe sur la terre, il n'y a plus rien qui devrait nous déranger. On devrait toujours garder notre calme, on devrait toujours garder notre sérénité, on devrait toujours garder notre contentement. Je lui prêtais un livre récemment à quelqu'un sur le contentement. Moi, les premières fois que j'ai lu ça, j'étais assommé, comme on dit. Tu lis ça, puis tu dis, waouh! Faut donc que j'apprenne à me fermer. Tout ce que Dieu permet qu'il arrive dans ma vie, c'est pour mon bien. Arrête donc de broyer. Moi, le premier, là, je me mets pas à part des autres, je vous garantis. Alors, ça dit... Dans un chronique. Là, en passant, aujourd'hui, je ne vous ai pas donné. J'ai mis en annexe pour ceux qui vont recevoir les copies, qui désirent les recevoir, là, le chapitre 3 de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 qui s'appelle Le décret de Dieu. Il y a 7 chapitres dans cette Confession de foi-là. Et ça, c'est des pasteurs qui se sont réunis et qui ont regardé qu'est-ce que les Écritures enseignent sur le décret de Dieu. Je vous conseille fortement, ceux qui ont encore des copies de la Confession de foi 1689, si vous n'avez pas, tous les sermons sont sur Internet, vous pouvez tous les downloader, et c'est l'annexe du sermon d'aujourd'hui. Alors, c'est très important de reviser ça lentement, d'aller voir les versets et de méditer sur ces choses-là. On apprend beaucoup quand on fait ces choses-là. Alors, je vous dis ça comme ça. On va aller dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 12. « Puis David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et David dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne, et que tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. » Un souverain, c'est un roi, le roi des rois. Et c'est lui qui s'élève au-dessus de toute chose, qui contrôle absolument toute chose. Job 42, verset 1 et 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez lu votre livre de Job. Job, on sait qu'à un moment donné, Job, et Dieu lui a envoyé des énormes épreuves. Et à la fin, dans sa compréhension des choses, il y a eu des... On pourrait dire qu'il s'est enfargé quelques reprises. Il comprenait mal pourquoi toutes les choses lui arrivaient. Et Dieu permet à la fin, il le corrige en le questionnant. Job, « Où étais-tu quand j'ai fait ci? Où étais-tu quand j'ai fait ça? » Et ça, ça a eu l'effet de l'humilier. Dans Job 42, versets 1 et 2, « Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. » Psaume 115, versets 2 et 3, « Pourquoi diraient les nations, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qu'il lui plaît. » Psaume 135, verset 6. L'Éternel fait tout ce qu'il lui plaît, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Ésaïe 14, verset 24 et verset 27. L'Éternel des armées l'a juré, disant, « Certainement, la chose arrivera comme je l'ai projetée, et ce que j'ai résolu s'accomplira. » Car l'Éternel des armées a formé ce dessein. Qui l'empêchera? C'est sa main qui est étendue. Qui la détournera? Ésaïe 46, versets 9 à 11. Souvenez-vous des premières choses de toute ancienneté, car c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'avance ce qui n'aura pas lieu, Je dis, mon dessein subsistera et j'exécuterai tout mon bon plaisir. J'appelle du levant l'oiseau de proie et d'une terre éloignée l'homme de mon dessein. Ainsi que je l'ai prononcé, ainsi je le ferai arriver, je l'ai projeté et ainsi je l'exécuterai. La puissance du Seigneur. Jérémie 32, versets 17 à 19. Ah, Seigneur éternel, voici, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force et par ton bras étendu. Aucune chose n'est trop difficile pour toi. Toi qui uses de grâce envers mille générations, quoique rendant la rétribution de l'iniquité des pères dans le sein de leurs fils après eux, qui est le Dieu grand et puissant dans le nom et l'éternel des armées, qui est grand conseil et abondant en exploits, qui a les yeux ouverts sur toutes les voies des fils des hommes, afin de rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions. Daniel 4, versets 34 à 37. Au bout de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers le ciel et ma connaissance me revint. Et je bénis le Très-Haut, et je glorifiai et j'honorai le vivant d'éternité, duquel la domination est une domination éternelle et dont le règne dure d'âge en âge, et pour qui tous les habitants de la terre sont comptés comme néant, et qui agit selon sa volonté avec l'armée des cieux et les habitants de la terre, et il n'existe personne qui puisse combattre contre sa main ou lui dire « Que fais-tu ?» Dans ce temps-là, ma connaissance me revint, et pour la gloire de ma royauté, mon honneur et mon éclat me revinrent, et mes conseillers et mes grands seigneurs s'enquirent de moi, et je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je glorifie, je célèbre et j'honore le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vérité, et ses voies sont jugement, et il est puissant pour abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. C'est le livre de Daniel, c'est un livre tellement intéressant pour montrer la souveraineté de Dieu. Si vous lisez le livre de Daniel puis vous ne voyez pas la souveraineté de Dieu, là, je me demande qu'est-ce que ça vous prend. Parce que ça en est rempli d'un bout à l'autre. Matthieu 19, versets 25 à 26. Ayant entendu cela, ses disciples étaient frappés d'un grand étonnement et disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Mais Jésus, les regardant, leur dit, « Quant aux hommes, c'est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. » Lamentation 3, 37 et 38, ça donne un autre beau verset. « Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandée? Les maux et les biens ne procèdent-ils pas de la volonté du Très-Haut? » Alors, on va faire des quelques applications à partir de tout ce qu'on a vu. La doctrine de l'élection inconditionnelle, premièrement, elle est très excellente parce qu'elle rend toute la gloire à Dieu. Elle donne une vue exaltée du Seigneur. Deuxièmement, elle stimule la foi parce que la raison doit accepter ce qu'elle ne peut pas expliquer. Troisièmement, elle prépare la voie à d'autres grandes vérités scripturaires. Par exemple, la doctrine de l'élection inconditionnelle, on pourrait dire, prépare la voie à d'autres doctrines comme celle de la Trinité. Pas trop facile à démêler tout ce que les Écritures disent là-dessus, on y va par la foi. Quatrièmement, elle conduit à l'enseignement et à la prédication de tout le conseil de Dieu, même si cela déplaît aux hommes. Cinquièmement, elle donne une fondation d'une grande solidité à la doctrine de la persévérance des saints. On va y arriver là, dans les prochaines semaines. Elle cultive l'humilité et exclut l'orgueil. Tout simplement parce qu'on sait que c'est lui qui nous a tout donné. Donc, on n'a pas d'affaire à se péter bretelle. On ne peut pas se péter bretelle devant la grâce de Dieu. Septièmement, elle encourage à l'utilisation des moyens. Le Seigneur nous dit que pour annoncer son évangile, il va y avoir des moyens. Et lorsqu'on les utilise, ça produit des choses. La souffrance. Et pour évangéliser autour de nous, on a besoin de se préparer la prière. Et pour annoncer l'œuvre de Dieu dans le monde entier, on a besoin de sacrifices. Si ça n'a pas été des missionnaires qui, dans les siècles passés, se sont déplacés de continent en continent, on ne serait même pas là aujourd'hui. Alors, il y a des gens que pour faire avancer l'œuvre de Christ, on fait beaucoup de grands sacrifices. Et la huitièmement, elle fournit le bon motif d'évangélisation. Nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui sauve et de ne pas céder à la manie des nombres. Tu sais, dans une église, là, on pourra faire bien des choses pour attirer du monde. Si c'est juste des têtes qu'on veut. Mais si c'est des élus, ça, c'est une autre affaire. Alors, faut pas céder à la à la manie des nombres. Neuvièmement, c'est une formidable barrière contre le modernisme, le postmodernisme et le libéralisme théologique. Ça, on pourrait développer beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce chapitre-là. Et la dernière, ça réveille le pécheur insouciant et ça donne de l'encouragement aux élus de Dieu. Alors, je vous rappelle que l'annexe qui est dans ça, je vous reconseille de prenez-le, lisez-le lentement. Et dans le fond, il y a plein de petits numéros là-dedans. Là. Il fait une affirmation, il y a un numéro, vous allez au numéro qui est un verset. Faites ça. Ça va fortifier votre esprit dans le Seigneur. Alors, que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soit exalté, loué et béni éternellement. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.